Pourquoi, dites-moi, porter sa casquette comme cela ? Pour avoir le swag, espèce d'ignorant. Le swag, la touche, le style, le look. Et qui définit le swag ? Le rappeur. Ce rebelle, vrai ou faux, ou plus souvent faux que vrai d'ailleurs, dont je regarde les clips en boucle sur YouTube et dont je me dois de reproduire jusqu'à l'absurde l'image, si je ne veux pas passer pour un bouffon dans mon ghetto. Ah, ce besoin de se conformer à un modèle. Ce besoin de se conformer à un modèle. Eh bien, figurez-vous que ce besoin n'est pas si mauvais que cela. Il peut même se révéler fort utile à qui veut grandir dans sa foi et faire quelques pas de plus vers ce que l'apôtre Paul appelle la perfection. À condition, bien sûr, de ne pas se tromper de modèle. Et c'est là où le bât blesse. Tous ne font pas preuve de la même sagacité lorsqu'il s'agit de se choisir un exemple. Prenez les chrétiens de l'église de Philippe, en Macédoine. Pas sûr qu'ils aient été tous particulièrement inspirés dans leur sélection d'un héros auquel s'identifier. D'où cet extrait de la lettre que l'apôtre Paul leur adresse et qui nourrira notre réflexion ce matin. Et je vous invite, si vous avez une Bible avec vous, à l'ouvrir dans la lettre aux Philippiens. Nous lirons au chapitre 3 les versets 17 à 21 et le premier verset du chapitre 4. Philippiens, donc 3, les versets 17 à 21 et le premier verset du chapitre 4. C'est donc l'apôtre Paul qui écrit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais encore maintenant en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, dont nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de se soumettre toute autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mais bien aimé. C'est donc une étude entreprise il y a très longtemps que nous poursuivons ce matin par la lecture et la méditation d'un texte contrasté dont je vous propose d'extraire deux enseignements en lien avec le thème de l'imitation. Les modèles à fuir d'abord, les modèles à suivre ensuite. Les modèles à fuir, verset 18. Et 19, je relis, « Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ », écrit Paul. « Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais encore maintenant en pleurant. » Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités du monde. Alors, qui sont ces hommes, et peut-être aussi ces femmes d'ailleurs, visés par l'apôtre ? Les avis divergent. S'agit-il des judaïsants dénoncés plus tôt, ces chiens, comme Paul les appelle, qui enseignent aux non-juifs que pour être sauvés, ils doivent absolument se conformer à la loi juive et au rite de la circoncision en particulier? C'est peu probable. Nous pencherons plutôt ce matin pour une bande d'antinomiens, autrement dit, un essaim de prétendus chrétiens répandant déjà cette fausse doctrine selon laquelle il n'est pas nécessaire que nous, chrétiens, justifiés une fois pour toutes et vivant sous le régime béni de la grâce, obéissions encore à la loi morale. Jésus nous en a en effet définitivement affranchis. Voilà, me semble-t-il, pour leur identité, leur crime maintenant. Pour quelle raison Paul met-il ses amis philippiens en garde contre eux ? Nous en citerons quatre ici. Ce sont des imposteurs, des séducteurs, des idolâtres et finalement des condamnés. Des imposteurs ! Il ressort assez clairement de notre texte qu'ils cherchent à se substituer à Paul dans l'esprit des Philippiens. Peut-être se réclament-ils encore de l'apôtre, mais le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont pas grand-chose en commun avec lui. Leur comportement déjà n'a rien à voir avec le sien. Ils veulent passer pour des modèles de vie chrétienne, quand ils ne sont que des faussaires en quête de pigeons. Quant à leur enseignement, il n'est que séduction. D'où ce deuxième grief de Paul contre eux, ce sont des séducteurs. Quel reproche majeur l'apôtre leur adresse-t-il ? Verset 18, « Ils se conduisent en ennemis de la croix de Christ. » Ils se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Par quoi il faut comprendre ici qu'ils rejettent l'expérience de la croix telle que l'apôtre l'a déjà présentée plus tôt dans sa lettre. Savoir comme le seul chemin menant à Christ et à travers lui au salut. Rappelez-vous, comment parvient-on à la connaissance de Christ ? Réponse, en le suivant, Christ donc, sur la voie qu'il emprunta jadis, lui le premier, et dont nous savons maintenant qu'elle passait par la mort à soi-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, avait dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. D'où le discours de Paul, invitant ses lecteurs à liquider, si je puis dire, leur vieille nature, ou si vous préférez, leur vieil ego avec ses passions et ses désirs. Sachons bien ceci, écrit-il aux Romains, aux chrétiens de Rome, cette fois. L'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ sur la croix. Afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Tel est donc son enseignement, tel était son enseignement, dur, il faut le reconnaître, très dur même. Trop dur. C'est ce que semblent penser les imposteurs que dénonce l'apôtre, qui ont manifestement décidé de tenir, eux, un autre langage plus doux à entendre. La croix, comme passage obligé vers la plénitude du salut, à d'autres. La gloire promise, c'est maintenant. Cessez donc de vous faire souffrir en vous imposant je ne sais quelle ascèse, renoncement ou sacrifice, comme si Dieu, dans sa grâce, ne vous acceptait pas tel que vous êtes. Un discours séduisant en diable, c'est le cas de le dire, mais trompeur. D'où la vigoureuse mise en garde de Paul, ne l'écoutez pas, que cela vous plaise ou non, que cela nous plaise ou non, le chemin qui mène à la gloire passe toujours par la croix. Mais il est un troisième grief que Paul nourrit contre ces dangereux séducteurs. Ce sont également des idolâtres. Des idolâtres. Verset 19, cette fois. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire, il y a deux façons d'interpréter le mot ventre dans notre texte. Première lecture possible, le ventre désigne ici les appétits sensuels débridés. Le sens est alors que les ennemis de la croix, de Christ, vivent de manière charnelle. Et ce faisant, portent atteinte à la vraie doctrine de la liberté chrétienne. Seconde lecture possible, le ventre doit être pris comme un synonyme de nombril. Le sens est alors que ces ennemis de la croix n'ont Dieu en réalité que pour leur nombril. Leur Dieu, c'est eux-mêmes. Et, dit Paul, les réalités de ce monde. Aussi n'obéissent-ils qu'à des mobiles à ras de terre. Pour ce qui nous concerne, nous avons une petite préférence pour la première lecture. D'où notre conviction, ce que l'apôtre Paul condamne ici, c'est l'intempérance de ses contradicteurs. La liberté de leurs mœurs qui heurte et blesse les consciences encore tendres et fait de la liberté chrétienne une sorte de permis de péché. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Comme si, après qu'il nous a justifiés, Dieu ne s'intéressait plus à notre manière de vivre et que nous pouvions laisser libre cours à tous nos désirs et passions naturelles. Mais il y a une dernière attaque que Paul porte à ces idolâtres patentés, ce sont des condamnés. Verset 19, leur fin, c'est la perdition. On notera en passant que c'est en pleurant, dans les larmes, que Paul indique le sort que se réservent ceux qu'il combat. Reste que son verdict est sans appel, pour s'être soustrait à toute discipline chrétienne et en avoir entraîné d'autres avec eux sur la voie de la licence et de la débauche, les ennemis de la croix, comme il les appelle, périront. Triste fin. Mais encore une fois, Jésus les avait mis en garde, celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire ici garder sa vie pour la mener à sa guise. Celui-là la perdra. Un avertissement solennel qui vaut pour nous ce matin, mes amis. Attention de ne pas tomber nous-mêmes dans le piège, car il s'agit d'un piège que nous tend l'adversaire. Je le disais il y a quelques jours, je le répète ce matin, je me souviens de la question que me posait un jour un pasteur ami. Pourquoi, Paul, cherches-tu à reproduire la justice de Christ, puisque cette justice te recouvre déjà ? Non, mes amis, ce n'est pas parce que, à cause de notre foi, nous avons été déclarés justes par Dieu lui-même, et nous l'avons été, que nous ne devons plus nous préoccuper de notre sanctification et vivre désormais comme bon nous semble. Heureux, dit un jour Jésus, ceux qui ont faim et soif de justice, car eux, dit-il, vivront. Voilà pour les modèles à fuir. Intéressons-nous maintenant aux autres, les modèles à suivre, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Littéralement, imitez-moi d'un commun accord. Pourquoi ? Parce que vous avez en moi et mes compagnons, dit l'apôtre, un modèle de conduite authentiquement chrétienne. Gonfler l'apôtre. Eh bien non, et pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes à une époque où les témoignages écrits rendus à Christ et à son exemple ne sont pas encore répandus. Force est donc aux apôtres qui l'ont connu, eux, de reproduire dans leur propre vie son modèle, pour pouvoir inviter ensuite leurs frères et sœurs à l'imiter à leur tour. Ensuite, parce que, vous l'aurez noté sans doute, Paul ne se présente pas comme le seul modèle. D'autres qui marchent comme lui, Timothée sans doute, Épaphrodite aussi, ainsi certainement que d'autres membres de l'église de Philippe, restés fidèles à l'enseignement de l'apôtre, d'autres donc peuvent aussi servir de point de mire aux chrétiens. Cela dit, Il nous faut relever maintenant ce qui, dans le comportement de Paul et de ses fidèles disciples, est proprement exemplaire, d'après notre texte, s'entend. Deux choses, me semble-t-il, leur espérance et leur amour. Leur espérance, d'abord, versets 20 et 21. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de se soumettre, de tout soumettre à son autorité. Faut-il le rappeler, la vie chrétienne est attente, tension vers l'avenir. Et vers quel avenir ? Un avenir si plein de richesses qu'auprès de lui les plaisirs, jouissances, extases et autres gloires exaltées par les adversaires de l'apôtre ne sont rien. Jugez plutôt ce que Paul et ses collaborateurs attendent et nous invitent à attendre avec eux. Une patrie éternelle, un sauveur triomphant et une métamorphose glorieuse, excusez du peu. Une patrie éternelle d'abord. Notre vraie patrie, nous le savons, n'est pas de ce monde. Nous ne sommes sur cette terre que des étrangers, disent les apôtres, des étrangers. Et des étrangers de passage seulement, des voyageurs, nous dit la lettre aux Hébreux, des voyageurs en route vers cette autre cité que Dieu lui-même nous a préparée. Et dont nous sommes déjà, mes amis, les heureux citoyens. Regardez sur votre passeport. Nous ne possédons aujourd'hui qu'un titre de séjour temporaire. Parce que, comme nous le rappelle encore la lettre aux Hébreux, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Mais nous recherchons celle qui est à venir. Aussi, nos regards sont-ils fixés sur cette cité glorieuse entre toutes, que nous avons reconnue déjà comme notre vraie patrie, notre patrie éternelle. Et j'utilise à dessein le mot « patrie ». Ici, patrie, pays du Père, patrie, pays de notre Père, qui est dans les cieux. Ce qu'avec Paul et son équipe, donc, nous attendons aujourd'hui, c'est que nous soient enfin ouvertes les portes de son chez-lui, qui, depuis qu'il a fait de nous tous ses enfants, est aussi notre chez-nous, et notre chez-nous pour toujours. Mais à cette première espérance, il nous faut ajouter maintenant cette deuxième, un sauveur triomphant. Nous attendons aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. La référence ici est bien sûr à la parousie ou avènement de Christ que nous espérons, suggère l'apôtre, comme les citoyens romains attendaient la visite de l'empereur, que nous espérons. Oui, Christ va paraître, mais en Seigneur, cette fois. De telle sorte que tous ne pourront plus que plier le genou et se prosterner devant lui. En pleurant pour les uns. Je pense ici à tous ceux qui ne l'auront pas salué à temps comme leur sauveur et suivi comme leur maître, et que son apparition précipitera dans une terreur proprement inimaginable. Et dans la joie pour les autres. Entendez ici pour tous ceux qui, en temps utile, lui auront abandonné leur vie et qui ne verront alors en lui qu'un sauveur, venu faire d'eux des êtres tout neufs, parfaitement adaptés au monde radicalement nouveau dans lequel ils seront appelés à s'installer pour y vivre à jamais. Mais nous touchons là à la troisième espérance évoquée par l'apôtre, une glorieuse métamorphose. Verset 21, « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Lumineuse perspective, là encore. Ce qu'avec Paul et ses amis nous attendons, c'est aussi cela. Ce jour où, après qu'il se sera manifesté à tous en tant que Seigneur, Christ se révélera à nous en tant que sauveur. Comment ? En transformant notre corps de misère pour faire de lui un corps nouveau, en tout point semblable au sien. Autrement dit, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, fort et incorruptible, spirituel, glorieux et immortel. Pourquoi ? Afin que nous puissions profiter pleinement du monde à venir. Car ce n'est qu'après que nous aurons été rendus ainsi semblables à lui que nous pourrons entrer, enfin, dans la présence immédiate de notre Dieu. Le voir tel qu'il est et jouir ainsi pleinement de cette plénitude de vie qui ne se consomme sans modération que dans une parfaite communion avec lui. Voilà donc pour l'espérance modèle de Paul et de ses coéquipiers. Espérance que nous devons à la grâce de Dieu et à elle seule de pouvoir faire nôtre ce matin. Du moins, je l'espère. Un mot, enfin, de leur amour exemplaire, lui aussi, leur amour. Premier verset du chapitre 4 en particulier, « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur. » Mes bien-aimés, s'il nous faut considérer l'apôtre comme un modèle, c'est aussi pour cette raison que son amour pour ses frères et sœurs en la foi est d'une étonnante générosité. Il y a d'abord la façon dont il s'adresse à eux, littéralement, « Mes frères bien-aimés et si désirés !» Parce qu'il les aime d'un amour authentique, il ne peut que soupirer après eux. Nous arrive-t-il de brûler ainsi d'envie de revoir nos frères et sœurs ? Et puis il y a ce qu'il dit d'eux, « Vous qui êtes ma joie, ma couronne !» Autrement dit, si je suis heureux, c'est à cause de vous. Et si je suis fier, c'est de vous. Se peut-il que nous aussi voyions dans nos frères et sœurs la source de notre joie ce matin et la raison de notre fierté ? Si je suis heureux ce matin, c'est à cause de vous. Si je suis fier, c'est de vous que je le suis. Enfin, il y a ce souci exprimé par Paul, « Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Parce qu'il les aime d'un amour vrai, il ne peut que s'inquiéter de leur capacité de résistance. D'où son injonction, « Tenez ferme, tenez ferme. » La métaphore ici est celle du combat que criminels ou captifs sont appelés à livrer dans l'amphithéâtre romain. Si les Philippiens n'ont pas, eux, à lutter contre la chair et le sang, ils sont aux prises avec le plus coriace des adversaires, qui n'a de cesse qu'il ne les ait fait mordre la poussière en les renvoyant au monde et au péché. Il leur faut donc lui résister pied à pied. Et c'est à cela que leur père spirituel les appelle, parce qu'il les aime vraiment, et qu'il ne peut supporter l'idée qu'ils puissent s'écrouler et passer ainsi à côté de la récompense éternelle promise aux vainqueurs. Mes amis, nous inquiétons-nous pareillement de nos frères et sœurs, et particulièrement de leur capacité à tenir ferme dans l'épreuve. Les encourageons-nous régulièrement, comme l'apôtre, à chercher dans le Seigneur l'appui et les ressources dont ils ont besoin pour sortir vainqueurs du véritable combat dans lequel ils sont engagés. C'est pourtant à cela que l'on reconnaît un amour véritable. L'amour s'inquiète de l'autre et pour l'autre. Il nous faut conclure rapidement. Il nous est difficile de vivre sans modèle. Difficile de vivre sans modèle. Choisissons les bons. Et pourquoi pas celui que nous offrent Paul et ses compagnons, dans la mesure où eux-mêmes se sont toujours voulus imitateurs de Christ, un modèle d'espérance, un modèle d'amour. Amen.